Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Corporate Chat Podcast, version anglais et français. Vos animateurs aujourd'hui sont Mathis Grandchamp et moi-même, Aimé Journet, tous deux étudiants en finance à l'Université McGill. Notre invité aujourd'hui est Guillaume Marion. Guillaume Marion occupe le rôle de partner chez Sagard, où il est responsable des relations de la firme au Québec. Guillaume Marion a également un parcours remarquable, avec 18 ans d'expérience en investissement, que ce soit en Investment Banking chez HSBC, Private Equity chez PSP et en Venture Capital. Guillaume détient également un BAA du HEC où il a eu la chance de fonder l'Omnium Financier. Sans plus attendre, voici notre conversation avec Guillaume.
Bonjour Guillaume, merci de nous rejoindre sur le podcast aujourd'hui.
Merci Mathis et Émile, merci pour l'invitation.
Donc si on commence l'entrevue en plongeant dans ton parcours, tu as poursuivi tes études au HEC de 2003 à 2006. Comment t'es-tu impliqué tout au long de ton parcours universitaire? Puis comment est-ce que ces expériences-là ont influencé ta carrière?
Oui, bien, écoutez, je vous félicite pour votre initiative. Déjà, en termes d'implication, vous faites très bien ça. J'aurais rêvé à l'époque d'avoir ce genre de ressources-là quand j'étais étudiant. Puis bravo également à tous vos auditeurs et auditrices qui sont encore aux études ou qui débutent leur carrière, qui prennent le temps d'écouter ce genre de podcast, ça démontre déjà que vous faites partie, vous faites des efforts supplémentaires qui vous amèneront très loin plus tard. Donc, je commencerai avec ça. L'implication pour moi a toujours été très importante. J'ai vu rapidement en tant qu'étudiant que c'est une façon d'accélérer son développement autant personnel que professionnel, tout en ayant du fun. J'ai commencé mon implication un peu au cégep, mais c'est vraiment en rentrant à HEC Montréal. Dans mon bac en administration des affaires que j'ai eu la piqûre de l'implication. J'ai commencé à m'impliquer avec le club d'investissement qui s'appelle le fonds de placement HEC. C'était vraiment ça qui m'a ouvert les yeux sur rejoindre une association qui est réunie alentour d'un sujet d'intérêt avec des gens passionnés, avec des gens qui sont prêts à aller au-delà de ce que le syllabus académique demande. Donc, j'ai joint le fonds de placement HEC, je me suis donné énormément dans cette association-là. Je suis devenu président dès la deuxième année, ce qui, je pense, était la première fois dans l'histoire du fonds de placement HEC. C'est un réseau vraiment intéressant que j'ai joint à cette époque-là. Puis, j'ai beaucoup appris des choses dans ce club d'investissement-là que je n'aurais jamais appris dans mes cours, que ce soit comment évaluer une entreprise vraiment en profondeur, comment présenter à un groupe l'éthique de travail qui vient avec la rédaction de revues de secteur ou de rapports de recherche et tout ça. Donc ça, c'est de un. De deux, à ma deuxième année, à ma troisième année, après avoir été président du fonds de placement en deuxième année, pour ma troisième année, je m'étais lancé un nouveau défi. Et c'est à ce moment-là que je me suis impliqué avec le REFAC, qui est le regroupement des étudiants de faculté en administration de l'Est du Canada. Et j'ai été le président du comité fondateur de l'Omnium Financier, qui en anglais, peut-être que vos collègues de McGill appellent ça le Financial Open. Donc ça, c'était mon premier, je dirais, expérience en termes de... qui était un peu entrepreneurial, veux pas. C'était quelque chose qui n'existait pas. J'avais vu un gap dans le marché des compétitions académiques où il n'y avait rien qui existait pour servir la clientèle en finance et comptabilité. Donc, j'avais réuni un comité, j'avais fait des annonces à HEC Montréal dans les murs de la cafétéria que je recherchais un comité organisateur pour lancer quelque chose qui s'appelait l'Omnium Financier. Puis c'est vraiment, ça a été vraiment une belle expérience où j'ai appris à rallier un groupe à l'entour d'une cause, à lever de l'argent, à vraiment faire du project management de A à Z. Et ça, c'est des choses que j'ai pu récupérer plus tard dans ma carrière lorsque j'ai continué à m'impliquer en dehors du travail. Puis j'ai vraiment toutes saisi les opportunités d'implication quand j'étais à HEC, que ce soit d'écrire dans le journal étudiant, participer à différentes conférences. Et je pense que je recommande à tous les étudiants ou même encore les jeunes professionnels qui sont déjà dans leur carrière de s'impliquer, d'essayer d'aller dans différents événements. Il y en a qui vont être moins intéressants, il y en a qui vont peut-être être une perte de temps, mais il faut essayer, il faut... Tu sais, Woody Allen, je pense que la quote, la citation, 80% du succès, c'est juste d'être présent. Donc ça, j'y crois beaucoup. Puis l'implication, c'est comme ça que ça a été très important pour moi puis que ça a eu un impact positif sur ma carrière parce que j'ai appris sur moi, j'ai appris la gestion de projet, le travail d'équipe, le leadership et j'ai eu le luxe de pouvoir faire des erreurs dans ces implications-là. Tu sais, quand on est jeune, professionnel, dans une carrière, Des fois, on prend un petit peu moins de risques parce qu'on a peur. Tu sais, c'est une structure plus organisée, puis les conséquences sont réelles. Quand c'est de l'implication étudiante, oui, les conséquences sont réelles, mais c'est, tu sais, y a beaucoup de temps pour se rattraper puis corriger des erreurs. Puis j'en ai fait quand j'étais président de fonds de placement, j'en ai fait quand j'étais président du comité fondateur de l'AME financier, mais j'ai beaucoup appris de ça. Donc, je crois que ce sont les choses à retenir.
Après avoir obtenu ton diplôme du HEC, tu as commencé une carrière en M&A chez Canaccord Genuity. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette voie-là?
Oui, bien, ma famille ne vient pas du milieu des affaires, puis je vais vous épargner mon enfance et tout ça, mais tu sais, en gros, je dirais que on a vécu des difficultés financières sévères quand j'étais adolescent. Donc, je dois admettre qu'a priori, mon réflexe était vraiment d'aller vers une profession qui allait être lucrative. Et qui allait m'assurer un certain niveau de réussite professionnelle pour ne pas avoir d'enjeux financiers dans le futur. Et le investment banking semblait le choix logique à l'époque. Si le choix était à refaire, tu sais, je considérais beaucoup aussi d'autres avenues comme la consultation ou même l'entrepreneurship, mais je dirais que, étant donné mon parcours à HEC, j'ai vraiment été guidé par les gens qui m'entouraient, comme quoi le investment banking était peut-être la meilleure avenue pour ce que je recherchais. Je dirais que c'était aussi, j'avais perçu au-delà des récompenses économiques qui viennent de ce type de avec ce type de parcours, je voyais ça comme vraiment comme un des meilleurs bootcamps possibles, autant au niveau éthique de travail. Donc, c'est vraiment de travailler très fort, puis de t'sais, jamais abandonner, puis de trouver des solutions. Au niveau technique, encore de nouveau, comment bien évaluer une entreprise, comment faire un modèle financier, comment monter une présentation pour des clients, développer son instinct commercial, s'assurer d'être toujours à l'affût de ce qui se passe dans le marché. Donc, tout ça ensemble m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai choisi l'investment banking comme carrière pour le début de ma carrière. Puis j'ai choisi une boutique d'investissement, en fait, au lieu d'une grande banque. Puis ça, c'était un choix personnel. Les grandes banques ont leurs avantages et leurs inconvénients, les boutiques aussi. Les avantages d'une boutique qui, moi, à l'époque, ça s'appelait en fait Genuity Capital Markets au lieu de Canaccord Genuity. Canaccord a éventuellement acheté Genuity Capital Markets, je crois, en 2010. Ils l'ont renommé Canaccord Genuity. Mais à l'époque où j'ai joint, ça faisait juste un an que la firme était dans le marché. C'était un spin-off de l'équipe de CIBC World Markets. Puis moi, ça m'a attiré beaucoup de faire partie d'une équipe jeune, entrepreneuriale, pas nécessairement en termes de jeune en termes d'âge, mais jeune en termes d'existence de la firme, entrepreneuriale et avec beaucoup d'exposition à des choses que normalement, dans une grande banque, tu dois au moins être un associate ou un vice-président avant d'avoir ce genre de responsabilité-là. En tant que junior analyst à l'époque, j'ai vraiment eu le meilleur exposure. Donc, c'est une chose à garder en tête pour ceux qui sont en début de carrière ou qui sont encore en train de considérer quoi faire après l'école. C'est quel genre d'environnement que la personne désire. Est-ce que c'est un environnement plus entrepreneurial ou c'est un environnement qui est beaucoup plus structuré avec des programmes de formation et tout ça? Moi, j'ai choisi le côté entrepreneurial. Puis, j'ai pas de regrets parce que ça allait vraiment bien avec ma personnalité là, de créer des choses puis de vraiment être innovateur dans la façon de travailler.
Parfait. Donc, tu as joint Canaccord Genuity en M&A. Ensuite, tu as fait le saut à PSP Investissement, dont nous allons parler un peu plus loin. Comment ensuite as-tu fait le saut dans un startup à Berlin?
Oui, ben c'est grâce à mes implications, honnêtement. Puis c'est là que les points se connectent un petit peu. Tu sais, juste rapidement sur PSP, puis je sais qu'on en parlait, mais j'ai eu le rôle à cause d'un bon ami maintenant qui s'appelle David Lewin, qui est rendu senior partner chez Novacap. C'est lui qui m'a engagé chez PSP. Je ne l'aurais jamais connu si je n'avais pas été dans le club d'investissement de HEC. Il était 2 ans plus vieux que moi quand j'ai rentré, puis on est resté amis depuis ce temps-là. Puis ça a été t'sais, un processus qui était vraiment grandement grâce à lui, là, pour lequel je savais qu'il y avait une opportunité, c'était pas publié, tout ça. Donc, encore là, t'sais, faut sortir, être impliqué, puis rencontrer des gens, puis ça amène des opportunités dans le futur. C'est la même chose pour Rocket Internet. J'ai vraiment. Rocket Internet était l'incubateur, en fait, du startup que j'ai joint à Berlin. J'avais rencontré quelqu'un à travers une conférence que j'avais organisée à Montréal, qui voulait en savoir un peu plus sur PSP. Puis moi, je voulais en savoir un peu plus sur son parcours à lui, qui à l'époque était en consultation chez McKinsey Company. Puis d'une conversation à l'autre, il s'était fait approcher par un incubateur allemand pour créer la plateforme canadienne de Rocket Internet, qui est, comme je l'ai dit, un incubateur de sociétés technologiques. Puis d'une chose à l'autre, mené à que moi, je suis aussi dans le processus d'être recruté pour aider à créer cette plateforme-là. Finalement, j'ai été sélectionné étant donné mon parcours qui, je crois, les dirigeants qui étaient en Allemagne, qui sont venus à Montréal pour recruter, puis qui ont rencontré plus qu'une centaine de candidats, ce qui m'a démarqué dans mon profil. Évidemment, j'avais, fait investment banking, private equity, j'avais des bons credentials académiques, mais ils m'ont vu que j'étais beaucoup impliqué aussi en dehors du travail, puis que j'avais été tout le temps impliqué en termes de créer des organisations ou de leader des organisations. Puis ça démontrait que je pouvais peut-être être en mesure d'avoir de me transformer en entrepreneur ou du moins être dans une organisation où être entrepreneurial est très, très important. Donc, j'ai éventuellement joint Rocket Internet pour créer la plateforme au Canada. Finalement, après un mois, ils ont décidé de ne pas poursuivre l'avenue canadienne. Puis c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit, ben viens en Allemagne, puis on va trouver une opportunité pour toi. Puis c'est à ce moment-là qu'ils m'ont offert, en fait, de devenir CFO d'une de leurs compagnies internationales basées en Allemagne. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à faire le saut. Puis j'aurais pu facilement décider de rester chez PSP quand Rocket Internet m'a approché. Ça faisait quasiment 5 ans que j'étais là. J'avais mon plus gros boni qui était à recevoir dans quelques mois. Mais quand j'ai vu l'opportunité, je me suis dit, le train quitte la station, puis je vais la regretter plus tard si jamais je ne saisis pas l'opportunité, même si je me plante le nez. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Berlin. J'ai pris un certain niveau de risque, je dirais, de carrière. Mais je me disais, je pense tout le temps à ces décisions de carrière-là comme étant, est-ce que je vais le regretter dans quelques années de ne pas au moins avoir essayé? Puis c'est comme ça que j'ai pris le grand saut, puis qui m'a éventuellement ouvert les portes dans l'écosystème. On va parler de Sagard plus tard, là, mais c'est ça qui m'a ouvert les portes à faire partie de l'écosystème de Sagard.
Donc là, en 2013, tu avais déjà fait du investment banking, du private equity, tu venais d'être CFO d'une startup en Europe. Et puis là, tu t'es lancé dans une maîtrise, si je ne me trompe pas, au London Business School. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette maîtrise-là? Puis qu'est-ce que cette expérience-là t'a apporté?
Oui, bien, je dirais que c'était un peu un concours de circonstances. Ça n'avait jamais été dans ce que j'avais prévu de faire. J'avais tout le temps pensé, le bac CFA, CIA, carrière investment banking, je n'ai pas vraiment besoin de ce type de maîtrise. Mais le startup dans lequel j'étais à Berlin allait un peu moins bien. Et là, j'étais déjà en Europe. Et là, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de trouver un autre startup dans lequel être? Est-ce que je retourne au Canada? C'est un peu après une courte expérience en Europe d'à peu près 1 an. Puis c'est là que je me suis dit, je vais trouver une opportunité de rester en Europe. Puis c'est là que je me suis dit, les marques. Quand je parle de marques, c'est les London Business School, Harvard Business School, INSEAD, McKinsey, Goldman Sachs, tout ça. Les marques peuvent être très importantes dans une carrière. Puis je me suis dit, pourquoi pas LDS? Tu sais? C'est quelque chose qui va ajouter une corde à mon arc, qui va aussi me donner une expérience différente, une expérience de vie très différente. Puis j'ai pris le programme de maîtrise en finance au lieu du MBA parce que c'était 1 an au lieu de 2. Mais c'était très, très similaire à un MBA dans la mesure où tous mes cours non obligatoires, en fait, étaient des classes de MBA en stratégie, entrepreneuriat. Puis j'ai voyagé beaucoup durant ce temps-là. Donc ça a été une belle opportunité aussi que des fois, quand tu travailles à temps plein, c'est plus difficile de trouver le temps de voyager. Quand tu es à l'école comme ça, tu as beaucoup plus de flexibilité. J'ai fait des compétitions de cas en Espagne, par exemple, où on faisait des présentations, un case study, là, comme les jeux du commerce ou le monde financier en private equity. Puis j'étais en Espagne avec d'autres étudiants du MBA. J'étais le seul à la maîtrise en finance. J'ai fait des visites des sites de l'Holocauste en Pologne, qui était une expérience complètement surréelle, étant donné évidemment tout ce qui s'est passé là-bas, mais qui m'a appris beaucoup et qui j'ai fait aussi une semaine sur le campus de Dubaï, de London Business School. Donc, c'est tout ce type d'expérience-là que je voulais vraiment vivre et que des fois, quand tu es dans le marché du travail, tu n'as pas vraiment le temps d'arrêter et de voir c'est quoi les choses que tu pourrais vivre. Puis, tu sais, la plupart des gens, marché du travail, puis après ça, famille, puis après ça, il faut attendre d'avoir 60 ans pour faire ce genre d'expérience-là. Donc, je trouvais que c'était la maîtrise, tu sais, le MBA ou une maîtrise en finance ou peu importe, là, ce qui est post-graduate, c'est vraiment un bon moment d'avoir une pause et un reset dans sa carrière qui peut vraiment ouvrir des portes ouvrir des horizons, puis ouvrir un réseau, évidemment, qui est souvent inégalé, dépendamment dans laquelle des institutions, d'étudiants choisissent d'aller.
Super. Tu as aussi mentionné brièvement que tu as obtenu ton CFA ainsi que ton CAIA. Pourrais-tu nous expliquer ce que ces certifications-là t'ont apporté, puis en quoi elles ont aidé ta carrière?
Oui. Honnêtement, le CFA, c'était un peu un automatisme, je dirais, ayant été dans le Investment Club de HEC Montréal. Tu sais, tout le monde faisait son CFA. Je me suis dit, pourquoi pas. J'ai beaucoup aimé les soirées festives des samedis après les examens. Ça, c'était sûrement le plus beau souvenir du CFA, là, dans une certaine mesure. Mais non, en toute honnêteté, tu sais, je trouvais aussi que comme coût relatif de temps et d'argent, pour ajouter quand même une grosse corde à mon arc, je trouvais que ça valait la peine. Je pense qu'avoir son CFA démontre la crédibilité dans le marché, démontre l'habilité de quelqu'un de faire deux choses en même temps, faire sa carrière, plus faire le CFA en parallèle. Mais la mise en garde, c'est que ce n'est pas ça qui va te donner ta carrière ou la job de rêve que tu veux avoir. T'sais, c'est vraiment juste quelque chose qui est ce que je qualifierais, puis désolé de tous les anglicismes, là, mais « nice to have » versus « must have ». Puis, je dirais aussi que moi, j'ai réalisé par la suite deux choses. De un, je pense que j'ai peut-être pas aussi, tu sais, j'ai passé les examens, j'ai étudié, j'ai passé les examens, mais j'ai peut-être pas aussi, autant digéré le matériel que j'aurais pu, puis j'ai pas autant profité de tout le matériel puis la connaissance qu'il y a dans ces manuels-là. Et l'autre chose que j'ai découvert par la suite, par contre, qui était vraiment une belle surprise, c'est que la communauté CFA, par exemple, le chapitre de CFA Montréal, le chapitre de CFA Québec, dans la ville de Québec, et le chapitre canadien du CAIA que j'ai fait également, c'est vraiment des communautés très engagées. C'est vraiment un beau réseau. Puis je pense que CFA, je suis basé à Montréal, donc je vois beaucoup plus que CFA Montréal fait, mais ils ont beaucoup d'activités. Je vais à leurs événements, les gens sont super intéressants. Donc, c'est vraiment, ça rajoute un autre réseau. Donc ça, je trouve ça vraiment un bénéfice que je n'avais même pas vraiment considéré à l'époque lorsque j'ai fait le CFA. Je pensais purement ajouter quelque chose à ma carrière. Puis le CAIA, c'est la même chose. Je dirais que dans ce cas-ci, c'était moins un automatisme parce que je l'ai fait un petit peu plus tard. J'étais déjà en private equity chez PSP Investissement. Mais le contenu du cours, du programme, je trouvais ça vraiment intéressant, des investissements alternatifs. Et comme de fait maintenant, je navigue là-dedans au quotidien. Donc, c'est pas mal tout ça là, qui m'a apporté à faire ces certifications-là. Puis, je pense que je recommanderais à tout le monde qui poursuit une carrière en investissement ou en finance de les considérer également, puis de voir si ça vaut la peine. Évidemment, je ne ferai pas des all-nighters pour ça, mais si ça fit dans la vie et l'agenda de quelqu'un, tu sais, surtout tôt dans sa carrière, je pense que c'est le bon moment de le faire. Tu rencontres des nouvelles personnes, tu développes des nouvelles connaissances, puis tu ajoutes quelque chose qui solidifie un peu ton CV.
Puis, je suis curieux, tu as mentionné que tu as fait ton CAIA durant ton temps à PSP en private equity. Qu'est-ce qui t'a poussé à ce moment-là à justement le faire? Est-ce que c'était une pression des plus hauts dirigeants vu que c'était en alternative investment ou qu'est-ce qui t'a poussé à le faire?
C'est une bonne question. Non, je te dirais que j'avais vu les publicités dans la revue The Economist. Puis à ce moment-là, c'était un programme qui était relativement jeune et non prouvé. Mais ce qui m'a vraiment attiré, c'était le contenu. T'sais, je voyais que c'était par rapport au private equity, par rapport aux commodités, par rapport au real estate, par rapport au capital de risque. Puis je me disais, c'est la meilleure façon de me forcer à passer le temps à en apprendre davantage sur ces classes d'actifs-là. Puis j'avais évidemment lu un preview, un aperçu un des manuels qui était nécessaire. Puis je trouvais simplement comment c'était écrit, c'était beaucoup plus pratique. Puis c'est vraiment ça qui m'a attiré. Puis encore à ce jour, moi, je suis tout le temps, puis je fais attention, là, chaque fois que je vois CFA qui développe un credential ou une certification nouvelle ou le CIA ou d'autres organisations, je suis tout le temps intéressé parce que j'aime ça apprendre. J'aime ça lire, j'aime ça approfondir mes connaissances. J'avais même commencé un programme qui s'appelle le CBV, le Canadian Chartered Business Valuator. Puis j'avais fait un ou deux examens, puis éventuellement, je me suis dit, là, je commence à avoir trop de désignations, puis j'ai plus le temps. Mais j'avais quand même apprécié les connaissances que j'ai acquises dans les premiers examens que j'avais fait avec ce programme-là. Donc, c'était vraiment de moi-même.
Je ne sais pas si tu en as touché un peu, mais tu as aussi été membre ou tu es membre de conseil d'administration de plusieurs organismes à but non lucratif. Peux-tu nous parler de tes expériences et de ce qui t'a motivé à t'engager dans ce domaine?
Oui, ben, je dirais que c'est très similaire à comment je parlais de mon implication lorsque j'étais étudiant. Historiquement, j'ai toujours voulu avoir un impact. Puis dans le cas des implications en dehors du travail, une fois sur le marché du travail, je n'étais pas sur des conseils d'administration au tout début, bien sûr, étant donné que j'étais plus jeune et j'avais moins d'expérience. Mais j'avais trouvé une façon de m'impliquer en créant des regroupements. Donc, par exemple, j'ai cofondé les Jeunes Associés de l'Opéra de Montréal, qui malheureusement n'existe plus maintenant depuis quelques années. Mais j'avais cofondé ça à l'époque en 2009 avec deux amis. Puis ça, c'est quelque chose qui me rappelait un peu mes implications universitaires, qui me donnait l'opportunité de me rapprocher d'une organisation avec qui j'avais beaucoup d'affinités en termes de ce qu'ils font. Là. Par exemple, l'Opéra de Montréal, j'aime beaucoup l'art lyrique. L'Institut économique de Montréal, je m'étais impliqué avec eux aussi en 2008, 2009, 2010 pour créer une série de conférences. C'est un think tank sur les politiques publiques. Donc, je m'étais impliqué avec ces organisations-là à l'époque. Soit créer des comités ou créer des événements ou simplement juste m'impliquer avec l'organisation elle-même. Puis ça, dans le futur, c'est ça qui m'a mené à réengager avec ces organismes-là une fois que je suis revenu d'Europe. Puis là, à ce moment-là, ma carrière avait quand même largement avancé. C'est à ce moment-là que j'ai été invité à joindre ces conseils d'administration-là, puisque les dirigeants et les autres membres du conseil d'administration voyaient que j'étais passionné par ces causes-là, que j'avais contribué de longue date à ça. Et trouvais que mon profil était intéressant pour être rajouté, être un ajout à ces conseils d'administration. Puis, je dirais que ça, c'est une expérience incroyable. C'est une expérience incroyable en termes d'avoir un impact plus grand, d'apprendre beaucoup sur comment ces organisations-là sont gérées, étendre mon réseau, évidemment, parce que sur un conseil d'administration, on retrouve plusieurs profils différents et normalement des profils qui ne se ressemblent pas pour justement avoir un conseil d'administration qui ajoute de la valeur à l'organisation. Donc, c'est vraiment ça, c'est une combinaison de passion personnelle dans les différents sujets et mon désir d'impliquer avec ces organisations-là, mais aussi mon désir d'avoir un impact plus grand, puis de continuer à apprendre, puis de continuer à développer mon réseau. Puis, une chose qui était le cas en début de carrière, qui l'est moins maintenant parce que je suis très heureux où je suis, César Gare, mais juste quand j'étais chez PSP, par exemple, puis j'avais un petit peu l'appétit de faire des choses un peu plus entrepreneuriales. Puis c'était une grosse organisation que j'ai beaucoup aimée, on va s'en parler plus tard, mais c'était comme ça que j'avais trouvé la façon de combler ce manque-là un peu que j'avais, là, de pouvoir mettre la main à la pâte et vraiment être un petit peu entrepreneurial. Puis c'est comme ça que je m'étais impliqué avec ces organisations-là. Puis avec le futur, ça a pris 10-15 ans, mais après ça, je me suis retrouvé sur le conseil d'administration. Donc, je recommande à tout le monde de commencer à s'impliquer tôt. Puis c'est la façon éventuellement de joindre les conseils d'administration dans les organismes à but non lucratif.
Puis ensuite, t'as rejoint Sagor ou t'as joué un rôle de leadership clé dans le développement du Venture Builder Diagram en tant que partner, CEO puis CFO. Peux-tu nous parler un peu de ton expérience?
Oui, ben le timing puis la chance, c'est un peu tout. En la vie, j'ai été très chanceux de me joindre au groupe quand je me suis joint. J'avais accepté une offre à l'époque quand j'étais à Londres en début 2017 pour aller au Qatar. Puis j'avais littéralement accepté une offre, j'avais fait un processus de recrutement quand même assez complexe et j'étais prêt à déménager puis faire une autre portion de ma vie au Moyen-Orient puis vivre quelque chose de différent. Mais entre-temps, un ami qui avait eu un lunch avec quelqu'un de l'équipe de Paul Desmarais-Trois, le fondateur de Sagar, la personne avait mentionné Rocket Internet et c'est là que mon ami avait dit, ben, je connais quelqu'un qui est en Europe, qui a travaillé pour Rocket Internet. Donc, j'ai été mis en contact avec Sagar début 2017, étant donné mon parcours chez Rocket Internet. Puis, c'est à l'époque, Sagar, c'était vraiment principalement Portage Ventures, le fonds de capital de risque en fintech qui est global, et l'incubateur Diagram Ventures qui crée des startups vraiment là, d'une page blanche. Donc, j'ai été originellement recruté comme CFO, où j'avais plusieurs chapeaux. J'ai été ensuite promu comme partner en 2019 pour devenir éventuellement aussi COO de la plateforme incubatrice de Sagard. Mes responsabilités incluaient la présidence du comité d'investissement, la gestion du portefeuille, la supervision des finances, des ressources humaines, des aspects juridiques, l'équipe légale, des relations avec les investisseurs. J'ai siégé au conseil d'administration des entreprises dans notre portefeuille. J'ai aidé ce qu'on appelle les fondateurs de nos entreprises à lever du capital, à organiser leur modèle financier, certains projets stratégiques. J'ai aussi, pendant ce temps-là, évidemment, siégé au ce qu'on appelle le comité opérationnel de Sagard pour être un pont entre Sagard et le reste, en diagramme, en fait, et le reste de Sagard. Puis, c'est ça, durant mon rôle chez Diagram pendant 7 ans, tu sais, j'ai vraiment joué un rôle de leadership pour évoluer notre plateforme de un fonds et 2 entreprises incubées à 5 fonds et plus que 20 entreprises incubées pendant le temps que j'étais là, qui a généré plus que 1,5 milliard de valeur pour les actionnaires, des rendements de premier quartile pour nos investisseurs externes et des entreprises qui ont créé plus que 1 500 emplois comme Dialogue dans la télémédecine. Et Nesto dans le domaine des prêts hypothécaires pour mentionner que ces deux-là.
Tu mentionnes, tu sais, pendant toute l'interview, tu as mentionné avoir eu beaucoup d'expérience entrepreneuriale. C'était comment pouvoir faire partie d'une de l'équipe de. Mais en fait, tu as eu un impact dans la création de Dialogue, j'imagine. Puis c'est comment de pouvoir faire partie d'une équipe qui a bâti une entreprise aussi grosse aujourd'hui, puis beaucoup de succès comme ça.
Oui, ben Dialogue était déjà existait déjà quand je suis arrivé, puis il y avait peut-être une dizaine ou une douzaine d'employés à ce moment-là. Mais je suis devenu très bon ami avec son CEO et cofondateur, Chérif Habib, ami de bonne date maintenant, puis on se texte encore à chaque jour. Mais ça a été vraiment incroyable d'avoir ce que j'appelle un siège de premier plan, avoir cette croissance incroyable qu'ils ont vécue une équipe d'une douzaine de personnes qui partageaient les mêmes bureaux que nous. Puis je me souviens toujours, ils avaient signé une ronde de financement qui avait été menée par White Star Capital, que vous connaissez sans doute. Puis ça, c'était à l'automne 2017 ou début 2018. Là, je me souviens plus exactement les dates précises, mais je me souviens que la veille la première rencontre du conseil d'administration plus formelle, Chérif et moi, on se demandait, bon, comment on structure ça? C'est la première rencontre, puis littéralement, on était sur le web à regarder c'est quoi les meilleures pratiques comment faire ça. Donc, c'était vraiment de participer à cette croissance-là. J'ai énormément appris. J'ai été très chanceux de faire partie de cette expérience-là d'une compagnie comme Dialogue où j'ai pu, effectivement, j'étais intérim CFO de l'entreprise au début. Donc, j'ai aidé la compagnie à préparer sa présentation aux investisseurs, à lever de l'argent, le modèle financier, à parler à certains clients qui voulaient valider la solidité financière de la compagnie. Donc, ça a été vraiment, vraiment une belle expérience. Au fur et à mesure que notre modèle Diagram a évolué, je ne pouvais plus être aussi impliqué dans les entreprises qu'on créait par la suite parce qu'évidemment, je ne peux pas faire ça 5 fois en même temps. Donc, on a trouvé un modèle un petit peu différent avec le temps. Mais ça a été vraiment quelque chose de spécial et extraordinaire de faire partie de la croissance de certaines de ces entreprises-là à leur tout début, de voir comment elles ont grossi. Donc, j'ai beaucoup de fierté et de reconnaissance d'avoir fait partie de ces histoires-là qui continuent à avoir beaucoup de succès encore. À ce jour, et certaines de ces compagnies-là ont un impact très, très bénéfique sur la société canadienne. Donc, je suis très fier de ça.
Alors, toute ta carrière, je pense que tu as travaillé beaucoup avec des investisseurs. Donc, je suppose que développer ton réseau personnel est un aspect essentiel de ta carrière. À ton avis, quelles sont les meilleures stratégies pour commencer à construire son réseau dès l'université?
Oui, bien, ça va chercher c'est plusieurs des choses que j'ai mentionnées en ce qui concerne l'implication. C'est d'essayer des nouvelles choses, aller à des événements. Il y en a que ça va pas être très intéressant, puis que ça va être, tu sais, c'est essai et erreur de trouver aussi les choses pour lesquelles tu vas avoir du plaisir. Tu veux pas faire ça juste pour élargir ton réseau juste pour faire ça, là. Il faut aussi avoir du plaisir dans nos vies. Puis donc, je dirais aussi, c'est vraiment une question de bâtir des vraies relations d'amitié, puis pas des relations transactionnelles. Ça, c'est très, très important. Les relations, ultimement, c'est tout. C'est vraiment tout, les relations. Plus que j'évolue dans ma carrière, plus que je le réalise. On se le fait dire qu'on est jeune, mais je pense qu'on ne l'apprécie pas autant T'sais, que quand on est plus vieux, puis on voit que les décisions, en fait, sont très basées sur les relations qui sont sous-jacentes aux organisations qui font certaines transactions, qui font certains partnerships, qui font certaines collaborations d'affaires. Tout est vraiment, puis désolé encore l'anglicisme, tout est vraiment drivé par les relations humaines. Donc, c'est très important de développer une habileté à connecter avec les gens, à bien les écouter, à voir comment on peut les aider aussi, puis d'être dans un état d'esprit qui est axé sur le long terme plutôt que des résultats à court terme. La communauté des affaires, particulièrement à Montréal et au Québec, est très petite et les gens se recroisent éventuellement. C'est incroyable à quel point avoir les gens que je côtoyais, soit à HEC ou que j'ai rencontrés dans certains événements. Des fois, je ne les connaissais pas beaucoup, puis je vois que leur carrière a pris une envolée incroyable. Puis maintenant, je les recroise à d'autres moments à travers Sagard ou à travers d'autres conseils d'administration, par exemple. Puis, donc, c'est tout le temps, je dirais, de penser à long terme et non essayer de juste trouver des relations, avoir des cartes d'affaires, puis donner sa carte d'affaires, puis essayer de dire que je connais telle et telle personne ou. Donc, je pense vraiment bâtir des vraies relations à long terme, c'est ça la clé à développer son réseau. Puis ça développe une réputation pour quelqu'un. Puis ça fait en sorte que tu te fais connecter aussi à d'autres personnes. Puis tu fais juste grossir organiquement ton réseau.
Puis, dans les dernières années, tu as occupé des postes en Allemagne, à Londres, à Montréal. Quels ont été les défis les plus marquants que tu as fait face dans ces différents marchés-là, justement? Puis, comment est-ce que ça a affecté ta carrière? Donc, j'imagine, comme tu viens de le dire, c'est sûr, avec désolé, l'anglicisme aussi, ton exposure avec plusieurs différents marchés, ça doit avoir aidé aussi ton réseau à contact aussi, j'imagine.
Oui, bien sûr. Je pense que ça a définitivement élargi mon réseau, donné beaucoup de crédibilité aussi de retour à Montréal, d'avoir ce réseau-là, d'avoir eu cette expérience-là. Je dirais que le plus gros challenge que j'ai fait faire, auquel j'ai fait face dans ces marchés-là était l'intégration sociale, sans doute. Ultimement, c'est dur de développer un sentiment d'appartenance à quelque part qui n'est pas chez toi. Puis c'est pour ça que je m'étais tout le temps dit, je vais revenir à Montréal éventuellement. Je suis revenu un peu plus tôt que je pensais, mais c'était important pour moi de revenir au Québec, au Canada, parce que c'est ma communauté, c'est ici que je vais avoir le plus grand impact. Puis là, maintenant, je peux utiliser mon parcours professionnel, puis apporter toutes ces connaissances-là, ces relations-là au Québec, dans mon rôle actuel. Donc ça, j'en suis très content. Mais oui, mais je recommande malgré tout à tout le monde d'essayer d'avoir une expérience à l'étranger. C'est vraiment quelque chose d'unique qui change une vie, qui apporte une perspective qui est difficile à retrouver ailleurs. Mais ça vient avec son lot de défis, comme je le dis, ultimement. Et ça dépend aussi. Il y a des gens qui aiment ça, ils vont faire leur vie à l'étranger, ils ont peut-être moins d'affinité à vouloir contribuer à la scène locale. Moi, je suis très pro-Montréal, pro-Québec, pro-Canada. J'ai tout le temps été très impliqué ici dans le passé. Donc, ça aussi, ça me manquait. J'étais impliqué un petit peu à l'extérieur du travail, à Londres, moins à Berlin, mais à Londres. Mais ce n'est pas la même chose que d'être impliqué dans des organisations qui ont un impact. Au Canada, au Québec et à Montréal.
Tu viens de parler un peu de ta vie sociale. Comment est-ce que tu évalues ton équilibre de travail, vie personnelle en ce moment, puis comment est-ce que ça a évolué au fil de ta carrière?
Oui, bien sûr, au début, quand j'étais en investment banking chez Genuity, j'avais littéralement pas de vie. Je pense que ma pire semaine, j'avais peut-être fait 110 heures, là. Honnêtement, c'était pas très sain. C'est un vrai 110 heures, là. J'ai pas arrondi. Mais donc à ce moment-là, j'avais zéro vie sociale, sauf le vendredi soir, ou même peut-être même pas le vendredi soir, le samedi soir, là, je sortais comme tout le monde. Des bonnes mémoires de cette époque-là. Je me souhaite beaucoup d'amis que j'ai gardés de cette époque-là. Puis quand j'ai été chez PSP en private equity, c'était encore évidemment très demandant, mais j'ai pu trouver, commencer un petit peu plus à m'entraîner physiquement, aller au gym. avoir l'occasion aussi de me réimpliquer parce que j'avais zéro temps pour m'impliquer quand j'étais chez Genuity en dehors du bureau parce que je dormais principalement lorsque je ne travaillais pas. Puis là, chez PSP, j'avais la chance d'avoir un petit peu plus de, je dirais, ce qu'on appelle d'équilibre, mais c'était quand même des longues heures, surtout quand j'étais amené à voyager de façon internationale. Puis ultimement, tu sais, je dirais que c'est chacun son chemin, puis chacun son équilibre là-dessus. C'est un choix très personnel. Je pense pas qu'il y ait de formule gagnante. Ça dépend de ce que tu veux, de ta carrière, de ta vie personnelle, de ta vie professionnelle. Ça dépend de tes valeurs, ça dépend de certaines circonstances de la vie aussi. As-tu des enfants? As-tu pas d'enfants? Est-ce que tu habites très loin? Est-ce que tu es au centre-ville de Montréal? Mais je pense que le conseil que je donnerais, c'est de. Ça dépend, c'est pas pour tout le monde encore, mais de pas trop les compartimentaliser en deux, de compartimenter en deux. Ça devrait pas être j'ai ma vie personnelle et j'ai ma vie professionnelle. Idéalement, il y a un petit peu une croisée des chemins là-dessus. Ça rend les choses beaucoup plus soutenables à long terme. J'ai beaucoup d'amis avec lesquels j'ai une relation aussi d'affaires. Et donc, ça rend la chose très plaisante. Puis je pense que je prends beaucoup d'inspiration de notre CEO ici, Paul Desmarais-Trois, où lui est un expert à développer son réseau et vraiment à entremêler autant son cercle social personnel que son cercle social professionnel ensemble. Et ça, je pense que c'est une recette que je trouve qu'il y a beaucoup de succès puis qui rend vraiment la vie plus agréable.
Great, thank you. So we're going to move to the English part of the podcast for market segment. Sagard is a global multi-strategy alternative asset management firm with exposure in venture capital, private equity, private credit, and real estate. Could you give us an overview of Sagard and its key focus areas?
Yes. So switching to English now. Sagard is really built to accomplish two things. On one end, we want to be able to support entrepreneurs over the life cycle of their businesses, whether it's to start a business from scratch, as I did in our incubator diagram, or accelerate their growth through capital expertise and our network. And when I say capital, it's through private equity and credit that we offer through different funds. And the other piece is to become a one-stop shop for investors of all kind who want to invest in alternative investments and also be part of our unique ecosystem. Since I joined, we have grown from 500 million of assets under management to over 26 billion, and that's USD, over the past years. And that was really there to help achieve those objectives of being able to support more entrepreneurs and being able to be an investment solution for more investors. Our growth also expands our network, our ability to bring value to our investors, our portfolio companies, and also help make sure that we have the best talent in the industry. Today, we're close to 400 people. We have seven offices around the world in North America, Europe, and Middle East. And we take great pride in our values of entrepreneurship, innovation, rigor, collaboration, and authenticity. And I mentioned those values because this is something that when I was much younger, culture and values didn't really resonate with me. And as I grew in my career, I realized that there was a lot of importance in making sure that you are in an organization where you align with the values. And definitely at Sagard, I feel really at home at the right place, somewhere where I'm proud to work and where we can have a lot of impact. In terms of what we actually focus on, we have four asset classes: private equity, private credit, real estate, and venture capital. In private equity, we have Canadian and European strategies in the middle market space. And those strategies benefit from a value creation team that is basically operating partners that help our companies with things like cybersecurity, technology, growth, marketing, M&A, and commercial introductions. We also have private credit. Here again, this is more actually North American, and it's focused on the middle market space directly with companies that are not backed by private equity. And by that, I mean we lend money to companies that are family owned or that are publicly traded, which is very different from other private credit strategies you might see in the market. And this is definitely a fast-growing asset class that provides a lot of benefits to investors. We also have real estate. We have a US-based full stack manager focused on niche markets in the US, like industrial, multifamily, manufactured housing, outdoor storage, and all of that in supply constrained markets. So that's quite interesting and unique. And finally, last but not least, we have venture capital, which is where kind of the core Sagard was really developed in 2016, 2017. There we have fintech strategies that benefit really from the advantages of being part of the Power Corporation / Sagard ecosystem. Many of your listeners will know probably Wealthsimple, for example, which is a big story coming out of our ecosystem. So those are the four big things that we do at Sagard.
So you've been through multiple different economic environments at Sagard since you've been there. You've been through the pandemic, high inflation. How do different economic environments affect your role at Sagard?
Yeah, I mean, I would say that you always need to adapt, right? You always constantly need to adapt to the economic environment. When the economy is strong, we see more capital flowing, deal opportunities across private equity, credit, and venture capital are plentiful, and fundraising is often easier. During downturns, rising interest rates, inflation, and tighter liquidity, that makes investors more cautious and deals can slow down. So my role is to navigate these shifts, whether it's finding new ways to engage with our investors to raise capital for different strategies, or working closely with entrepreneurs on the ground to uncover opportunities even in challenging times. So it's all about staying flexible, keeping the big picture in mind. That's also what I love about what I do. We're right in the middle of the economy at Sagard, and we need to always know what's going on out there and adapt to make sure that we deliver value to both our client, to our investors, and also the entrepreneurs that we back with the capital that our investors entrust us with.
Great. And if we go back in time to 2008, you were involved in private equity at PSP Investments. How was that experience for you? And did you encounter noteworthy events during that time?
Yes. So PSP was kind of my break into the buy side, right? I was on the sell side early in my career, and then I moved to the buy side in private equity. I felt that this was the logical next step in my career. I joined PSP when it was around, I believe, 28 billions of AUM. So it was kind of the early days of PSP. It has grown tremendously since then. But even though we were 28 billions of assets under management, and I think the portfolio of private equity, or at least its allocation, was about 5 billion, it was still very entrepreneurial because the team was fairly new. The whole organization was fairly new. We didn't have a clear investment process in place. So I really enjoyed that piece. Two things that are noteworthy, I would say that this was also my big break in terms of getting international experience. So I got to work on transactions in Asia, in Europe, in the US. That led me to travel in those destinations. And that was the first for me, flying business class and meeting all those senior executives in different places around the world. That was really, really fun, really eye-opening. And I would say that the timing itself was, I moved into PSP in the fall of 2017. So that's when there were starting to be cracks in the financial markets before the GFC started really in late 2018. So I would say that because of that, the deal making itself was a bit slow. So it was more about kind of portfolio management, looking at deals, but never really executing on anything, to be honest. I did participate in a few transactions, but it was not as many as I thought I would in such a large portfolio. But nonetheless, the experience was overall amazing. PSP is one of our greatest institutions that we have in Canada. We're very lucky to have it in Montreal, especially. So this was highly recommend, of course, working for those large pension funds or those large investment institutions that have a global reach, because that's really eye-opening and a great experience for someone who's young in their career.
Are there any trends or practice areas that you're looking forward to in 2024 or most excited for?
Yeah, I would say that the democratization of alternative investments is something that is really, really exciting. That has been a trend over the past few years. More and more people talk about alternative investments. They're becoming now available to even retail channel or wealth channels. So that's quite interesting. I mean, this means really giving access to investments to the four asset classes I mentioned and others to a wider range of investors through different channels. We've actually launched in the past few months a evergreen open-ended fund for the Wealth Channel in private credit, and we're going to launch new ones. And this is really bringing institutional grade investment capabilities of Sagard to a broader array of clients. So we're very, very excited about this. I think this is the next big leg of growth in the alternative investment industry. And I take great pride in the fact that Sagard is playing a leadership role in bringing those kind of products to market so that more and more people can allocate to alternative investments in their portfolios.
And now moving on to the mentorship segment, how do you think students should go about finding an internship?
Of course, I would say start with your school's job board, but also work your network. We hired an intern recently in our team for a role that was not posted. He was actually from McGill before moving to the U.S. on a full scholarship as a member of a basketball team. His name is Sebastian. He was connected to me through a friend, and it took a bit of time because we didn't really have a process in place, but it worked out, and now he's part of the team. He's been a great addition, and I think if he had not worked his network, he would have never found out about this opportunity. So that's the big thing. I think you need to take risks, reach out to people. You'll get a lot of no's. You'll get a lot of people who ignore you. But it's worth it. It's good practice also to do those kind of things, to try to sell and get some answers back. So that's what I would recommend to students.
What does a typical interview look like at Sagard?
I mean, there's different ways to go about it. I mean, for an internship, it's a bit different, of course, because there's less of a track record to kind of look into. So I would say that there is. There's typically in more established roles a case study, which is a big differentiator for different candidates, and that's where you kind of see the best from the rest. But we don't really have that at the internship level just yet. And a side note on the case studies that we do, the best training I got for those was actually doing those case competitions at SRC or back at London Business School. It's really a good training for those kind of case studies. But all that to say that it's always the most interviews are not that hard if you know how to approach them well, which is to have a mutual discussion as opposed to just saying yes, no, and you need to show interest in the person sitting across you, either on Zoom or across the table. You need to have the right questions. You need to show that you've done your homework. There's so much resources out there now. So I feel like if I had been interviewing, let's say, for investment banking, now, like the amount of resources is insane. So there's no excuses to not have done your homework in terms of knowing everything about the industry and knowing about people who are on LinkedIn now. So you can go on their profile, you can look at what they liked in terms of posts in the past few months. You can look if they posted something, and that kind of can create discussions. You can Google them, and sometimes you'll see that they're on a nonprofit board that is not on LinkedIn, and that's kind of a way to connect with those people. There's so many resources now to do interviews. So I get really disappointed when I meet someone who is not prepared, because there's really no excuse to be not prepared. And then it's just a question of having the right attitude, the right skill set. As an intern, it's really hard to differentiate yourself, but you kind of know, right? Has this person been very active in extracurriculars? What are the grades? You know, what have they done as jobs before? My first job was at McDonald's for 3 years. It showed that I had work ethic. So that kind of is the kind of things that you can do ahead of finding an internship. But the good news is that I think it's almost a level playing field. You can still, anyone can make it. You don't need to have gone to Harvard or have a 4.0 GPA or things like that, right? Anyone can make it if you just do your homework, prepare well, and connect well with the interviewer.
Yeah, that makes total sense. And now, what skills are necessary to excel in the leadership role in business?
Yeah, I mean, there are tons of great podcasts and books on this topic. I'm not going to pretend that I'm going to bring something of great value here, but the two things I would mention which I think I mentioned before a bit, but it's humility. I think humility is key in being a great leader, and the ability to also build true relationships. I think this is a key differentiator as you evolve in your career. Building real relationships with people is something that will pay off. So I would say, I would just point those two out, but there's so many great resources out there, so I'm not going to pretend I'm an expert.
Yeah, and now if we move on to the rapid fire questions and we switch back in French, quel est le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné?
Je l'ai lu dans un livre, puis là, malheureusement, la citation est en anglais, mais c'était l'autobiographie de Michael Bloomberg, que j'ai lu au moins 3-4 fois déjà. Puis là, il y avait une ligne que j'avais soulignée, c'était « The harder you work, the better you do. It's that simple. » Et ça, je l'ai toujours cru à ce jour. Et il n'y a pas de raccourci dans la vie. Il faut travailler fort. Il n'y a rien qui remplace ça. Puis, je trouve un conseil à votre audience, c'est travailler fort. À l'époque, je trouvais ça un peu comme un table stake, donc quelque chose qui était vraiment rudimentaire de base. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent très fort se démarquent parce que je ressens un peu dans le marché des fois que le concept d'avoir du temps de libre, peut-être un meilleur équilibre. Puis c'est correct aussi, chacun a son chemin, comme je disais plus tôt. Mais je crois qu'il y a une opportunité de facilement se démarquer en travaillant très fort. Puis ça, je le vois, je l'ai vu même quand j'étais à HEC. Tu sais, ultimement, je dormais pas beaucoup. J'avais des bonnes notes, mais j'étais impliqué à gauche puis à droite dans plein d'affaires que j'y aidais. Puis je faisais mais l'effort incrémental, c'est pas comme si je travaillais 10 heures de plus que tout le monde par jour. Je travaillais peut-être une couple d'heures de plus que tout le monde par jour. Puis des fois, j'allais peut-être pas une soirée le jeudi soir parce que je devais préparer quelque chose pour une conférence qu'on avait le lendemain. Mais cet effort incrémental-là, le payoff était disproportionné. Donc, le payoff était beaucoup plus grand. Donc, moi, c'est tout le temps ça que je trouve que the harder you work, the better you do. Là, c'est vraiment une phrase que j'aime beaucoup.
Sur l'échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que tu dirais que ta moyenne générale, ton GPA, est important en tant qu'étudiant?
Intéressant comme question. Je dirais peut-être 8 à 9. Je ne pense pas que c'est nécessaire d'avoir A+. Nous, c'est un GPA de 4.3 ou 4.0, je crois, à McGill. C'est important de démontrer que tu es capable d'avoir des bonnes notes, que tu as la rigueur intellectuelle pour avoir des bonnes notes. Mais à la fin de la journée, c'est pas quelque chose qui va faire ta carrière. Mais il y a un minimum à avoir. Puis moi, je me souviens, en investment banking, on m'a toujours dit « A moins, c'est le minimum ». À moins à HEC, c'était 3.7 sur 4.3. Donc, mon GPA à la fin des 3 ans était exactement à moins. J'avais optimisé mes efforts académiques pour pouvoir avoir la note nécessaire. Puis là, je passais le temps que j'avais économisé pour ne pas avoir le A+, à m'impliquer. Donc, mais ça demeure important. Puis je pense, éventuellement, c'est sûr que après 5, 6, 7 ans de carrière, il n'y a plus personne qui regarde ça parce que tu t'es déjà établi dans un parcours. Mais au début, je donnerais quand même un bon 8-9. Ça démontre beaucoup sur le caractère de quelqu'un.
Ouais, ben, je confirme, le critère n'a pas changé. C'est encore le même
problème
qu'on parle. sinon, si tu n'étais pas dans le secteur financier, que ferais-tu à la place?
De façon réaliste, je pense que je serais un entrepreneur dans un domaine excitant. Je crois que c'est une chose que je n'ai pas découvert assez tôt, tout ce qui est l'entrepreneurship. Je l'ai découvert beaucoup lorsque j'ai joint l'incubateur de Sagar. Commencer à bâtir une compagnie, c'est quoi les défis, les récompenses qui vont avec ça. Je pense que j'aurais peut-être pu poursuivre cette voie-là parce que je pense que j'étais un petit peu un esprit entrepreneurial. Mais la bonne nouvelle, c'est que chez Sagar, je peux définitivement le mettre en action parce qu'on est très entrepreneurial comme organisation. Puis de façon réaliste, je serais un joueur de tennis professionnel. Bon, ça, c'est la carrière que j'aurais aimé, mais il aurait fallu que je commence, là, j'ai 41 ans, il aurait fallu que je commence il y a au moins 35 ans. Je suis un petit peu en retard.
Quel est un livre que tu recommanderais à nos auditeurs?
J'ai mentionné Bloomberg by Bloomberg, donc ça en serait un pour sûr. L'autre que je recommanderais beaucoup, puis que j'aurais aimé lire plus tôt dans ma carrière, mais ça n'existait pas. Ça s'appelle The Psychology of Money par Morgan Housel, qui a aussi une série de podcasts. Psychology of Money est un livre, en fait, qu'on donne à nos nouveaux clients de notre plateforme de gestion de patrimoine chez Sagard. C'est comme ça que j'ai eu connaissance de ce livre-là. Puis c'est un livre qui, je pense pas que personne va apprendre de quoi de révolutionnaire, mais dans la façon dont il repositionne la relation qu'on a avec l'argent et aussi les investissements, les relations sociales. J'ai trouvé ça fascinant. Puis il y a beaucoup de leçons que j'ai appris à travers le temps qui étaient déjà dans ce livre-là de façon très succincte. Donc, je recommande vraiment à tout le monde de lire ça. C'est un livre qui se lit très rapidement puis qui va bien au-delà de juste parler de l'argent. C'est vraiment un livre là, qui, je dirais, a changé aussi certaines des habitudes de vie que j'avais dans ma relation par rapport à l'argent ou les relations. Donc, je trouve ça quelque chose qui est fort, fort intéressant pour votre audience.
Super. Ben, je pense que ça clôt parfaitement notre discussion. Merci d'avoir prêté au jeu et de nous avoir prêté de ton temps. C'est super apprécié.
Mathis, Émile, merci beaucoup. Et merci aussi à votre auditoire là, qui prend le temps d'écouter ces podcasts.
Thank you for listening to this episode. If you enjoyed the show, don't hesitate to follow us on Spotify, Apple Podcasts, Instagram, and LinkedIn. Take care, guys, and see you next time.
The sole purpose of this podcast is to educate and to inform our listeners. It is by no means a substitute for professional guidance by qualified experts. This podcast is provided on the understanding that it does not constitute financial or other professional advice or services. Instead, we encourage you to discuss your career options, as well as financial undertakings with other professionals who specialize in wealth, securities, and asset management or any other field in financial services. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at a personal and individual risk. This podcast should not be considered professional advice. Guests who speak on this podcast express their own opinions, experiences, and conclusions. The views expressed on this platform are personal opinions and only, and should not be construed as financial advice for a given situation or from a given institution. While all attempts are made to present accurate information, it may not be appropriate for specific circumstances, and information may become outdated over time. No firm, nor any company providing financial support endorses or opposes any particular view or tools discussed in this podcast. This podcast is available for private, non-commercial use only. Advertising, which is incorporated into, placed in association with, or targeted towards the content of this podcast is forbidden. This podcast may not be edited, modified, or redistributed. The Corporate Chat Podcast is no liability for any personal activities in connection with this podcast or for personal use of this podcast in connection with personal websites, computers, or playing devices. Moreover, the Corporate Chat Podcast makes no warranty that this podcast or the server that makes it available is free of viruses, worms, or other elements or codes that manifest contaminating or destructive properties. McGill University and our sponsors expressly disclaims any and all liability or responsibility for any direct, indirect, incidental, special, consequential, or other damages arising out of any individual views of, reference to, reliance on, or inability to use this podcast or the information presented in this podcast.